Deuxième partie. Chapitre 16. Brand Lamia s'endormit peu avant l'aube d'un sommeil agité. Ses rêves étaient remplis d'images et de bruits venus d'ailleurs. Des conversations à moitié inaudibles et à moitié intelligibles avec Mayna Gladstone. Une salle qui semblait flotter dans l'espace, des mouvements continuels d'hommes et de femmes dans des corridors, où les murs chuchotaient comme un récepteur mégatrans mal réglé. Et derrière ces rêves fiévreux et ces images désordonnées, l'idée insensée que Johnny, son Johnny, était prêt, tout près d'elle. Lamia cria dans son sommeil, mais le bruit se perdit dans les échos irréguliers des pierres du sphinx en train de refroidir et des dunes en train de se déplacer. Lamia se réveilla brusquement, tous ses sens immédiatement en alerte, comme un instrument transistorisé qui se met en marche. Seul Weintraub était censé monter la garde, mais elle vit qu'il s'était endormi devant la porte basse de la chambre où le groupe s'était réfugié. Son bébé, Rachel, dormait par terre, près de lui, dans des couvertures, le derrière levé, le visage vers le sol, une petite bulle de salive au coin des lèvres. Lamia tourna la tête. À la faveur d'un globe bioluminescent de très faible puissance et dans la clarté du jour qui filtrait de l'entrée située 4 mètres plus loin dans le corridor, un seul autre pèlerin était visible, roulé en boule sur les dalles de pierre. Martin Silenus ronflait, la bouche ouverte. Elle sentit une vague de peur, comme si les autres l'avaient abandonné dans son sommeil avec le poète, le bébé et Sol. Mais elle se rendit vite compte que, finalement, seul le consul avait disparu. Le groupe de pèlerins, composé à l'origine de 7 adultes et d'un enfant, avait déjà perdu Het Mastin pendant la traversée de la mer des Hautes Herbes, à bord du chariot à vent. Lénard Hoyt était mort la nuit précédente et Kassad avait disparu la veille dans la soirée. Mais le consul? Où était le consul? Elle regarda de nouveau autour d'elle, comme pour s'assurer qu'il n'y avait rien d'autre que des bagages, des couvertures, le poète endormi et le vieil homme avec son bébé. Elle se leva pour prendre l'automatique de son père sous une couverture, chercha le neuro-étourdisseur dans son paquetage et se glissa sans réveiller les autres dans le corridor qui menait à l'entrée. C'était le matin. La clarté était si vive qu'elle dut s'abriter les yeux d'une main en descendant les marches de pierre du sphinx. La tempête s'était calmée. Le ciel d'Hyperion avait repris sa couleur lapis aux striures vertes. L'étoile d'Hyperion était un gros point blanc lumineux qui se levait en ce moment au-dessus de la paroi orientale de la falaise. Les ombres des rochers se mêlaient aux silhouettes profilées des tombeaux du temps, éparpillées dans la vallée. Le tombeau de Jade scintillait. Lamia vit que de nouvelles dunes s'étaient formées et que les sables vermillons et blancs avaient des courbes neuves et sensuelles, contrastant avec les striures anciennes de la roche. Il ne restait plus aucune trace de leur campement de la veille. Le consul était là, assis sur un rocher à une dizaine de mètres d'elle. Il contemplait tranquillement la vallée en fumant sa pipe. Elle glissa le pistolet dans sa poche avec l'étourdisseur et le rejoignit. « Aucune trace du colonel Kassad !» lui dit-il sans tourner la tête. Elle regarda de l'autre côté de la vallée en direction du monolithe de cristal. Sa façade, naguère brillante, était carbonisée et déchiquetée. Il manquait tout le haut de l'édifice, et il y avait encore des débris fumants à sa base. Les 500 mètres qui séparaient le sphinx du monolithe étaient défoncés et criblés de cratères.
« On dirait qu'il s'est défendu, » fit-elle.
Le consul émit un grognement pour toute réponse. L'odeur de la pipe donnait faim à Lamia.
« Je suis descendu jusqu'au palais du Gritch, qui se trouve à 2 kilomètres d'ici, » lui dit enfin le consul. « Il semble qu'une bataille ait eu lieu devant le monolithe. Il n'y a toujours pas de traces d'entrée dans le bâtiment, mais la façade est maintenant suffisamment déchirée pour montrer la structure intérieure en nid d'abeilles que nos radars de profondeur ont toujours détectée. »
« Et Kassad n'a laissé aucune trace ?»«
Aucune. » »«
Pas de sang ? Pas d'ossements ? Pas de mots disant qu'il reviendrait après avoir livré sa marchandise ?»
Rien du tout.
Brand Lamia soupira et s'assit sur une grosse pierre près du rocher du consul. Le soleil était chaud sur sa peau. Elle plissa les yeux en direction de l'entrée de la vallée.
« Qu'allons-nous faire maintenant ? »
demanda-t-elle. Le consul prit sa pipe entre ses doigts, l'examina en fronçant les sourcils et hocha la tête.
« J'ai essayé de nouveau de communiquer avec mon vaisseau tout à l'heure, »
dit-il en secouant les cendres,
« mais il est toujours cloué au sol. Les fréquences de secours sont également muettes. Ou le vaisseau ne relaie plus les messages, ou l'ordre a été donné de ne pas nous répondre. »
« Vous voudriez vraiment tout laisser tomber ?»
Il haussa les épaules. Il avait abandonné son costume d'apparat de la veille pour revêtir un gros pull de laine, un pantalon de whipcord gris et des bottines.
Faire venir le vaisseau nous donnerait au moins la possibilité de partir rapidement. J'aimerais que les autres envisagent cette option. Après tout, Mastin a disparu, Hoyt est mort, et nous n'avons plus de nouvelles de Cassade. Je ne sais plus ce qu'il faut faire maintenant.
Nous pourrions préparer le petit déjeuner,
fit une voix grave derrière eux. Lamia se tourna vers Sol Weintraub. Le vieillard s'avançait avec l'enfant dans son porte-bébé contre sa poitrine. Le soleil faisait luire son crâne à moitié chauve.
« Ce n'est pas une mauvaise idée, »
dit-elle.
« Nous reste-t-il suffisamment de provisions ?»«
Suffisamment pour le petit déjeuner d'aujourd'hui, en tout cas. Mais je crois que le colonel Cassade a des rations supplémentaires dans son sac. Quand elles seront épuisées, nous n'aurons plus qu'à nous nourrir de zygopèdes et à nous dévorer les uns les autres. »
Le consul fit l'esquisse d'un sourire et remit la pipe dans la poche de son pantalon.
« Nous pourrions peut-être essayer de regagner à pied la forteresse de Chronos avant d'en arriver à une telle extrémité, »
dit-il.
« Les provisions du Bénarès sont épuisées, mais il y avait des chambres froides à la forteresse. »
« En tout cas, j'aimerais bien... »
commença Lamia, soudain interrompue par un cri venant de l'intérieur du sphinx. Elle fut la première à arriver devant l'entrée, l'automatique de son père à la main. Le corridor était toujours sombre. Il lui fallut quelques secondes pour que sa vision s'accoutume à l'obscurité. Il n'y avait personne. Elle s'accroupit sur ses talons, balayant du canon de son arme l'angle du corridor, au moment où la voix de Silenus se faisait de nouveau entendre, d'un endroit situé hors de vue.
« Hé ! Venez par ici !»
Elle regarda par-dessus son épaule le consul qui s'avançait à son tour dans l'entrée.
« Restez là !»
lança-t-elle. Elle se mit à courir dans le couloir, en longeant le mur, le pistolet braqué à bout de bras, la sûreté des fêtes. Elle s'arrêta à l'entrée de la petite chambre où gisait le corps du père Hoyt. Martin Silenus était là, penché sur le cadavre du prêtre. La bâche de fibroplaste qui l'entourait avait été défaite. La main de Silenus en tenait encore un coin. Le poète regarda Lamia, puis son arme, sans manifester le moindre intérêt, puis de nouveau le corps du prêtre.
« C'est incroyable !»
murmura-t-il. Lamia se rapprocha, abaissant son arme. Derrière elle, le consul passa la tête à l'entrée. Elle entendit le bébé de Sol Weintraub qui pleurait dans le corridor.
« Bon Dieu !»
fit-elle en s'agenouillant près du corps de Lénard Hoyt. Les traits ravagés du jeune prêtre avaient été totalement remodelés. Ils avaient maintenant l'apparence d'un homme de près de 70 ans, au front large, au long nez d'aristocrate, aux lèvres fines légèrement relevées aux commissures, aux pommettes saillantes et aux oreilles pointues sous une frange de cheveux blancs. Ses grands yeux étaient cachés par des paupières aussi diaphanes et aussi fines que du parchemin. Le consul s'accroupit à son tour.
« J'ai déjà vu ce visage en holo, »
dit-il.
« C'est le père Paul Duret. »«
Regardez !»
fit Martin Silenus. Il tira le reste de la bâche et retourna le corps sur le côté. Deux petits cruciformes roses pulsaient sur sa poitrine, exactement comme ceux de Hoyt, à cette différence près que le dos était maintenant nu. De la porte, où il essayait de faire taire Rachel en la berçant et en lui murmurant des paroles apaisantes, Weintraub leur cria.
« Je croyais qu'il fallait 3 jours au Bicura pour se régénérer !»
Martin Silenus soupira.
« Les Bicura ont été ressuscités pendant 2 siècles standards par leurs parasites en forme de croix. C'est peut-être plus rapide la première fois. »
« Est-ce qu'il est... »
commença Lamia.
« Vivant !»
fit Silenus en lui prenant la main.
« Touché !»
La poitrine du prêtre se soulevait et retombait légèrement. La peau était tiède au contact.
La chaleur des cruciformes sous la peau était palpable. Brown Lamia retira vivement sa main. La chose qui avait été 6 heures plus tôt le cadavre du père Lennart Hoyt ouvrit les yeux.
« Père Duré ?» demanda Sol en s'avançant.
La tête de l'homme se tourna. Il battit des paupières comme si la lumière faible lui faisait mal, puis murmura quelque chose d'inintelligible.
« Un peu d'eau !»
fit le consul en sortant de sa poche une petite gourde en plastique qui ne le quittait jamais. Tandis que Martin Silenus lui soulevait la tête, le consul aida l'homme à boire. Sol se rapprocha d'eux, mit un genou à terre et toucha l'avant-bras de l'homme. Même Rachel, avec ses yeux noirs, semblait curieuse.
« Si vous ne pouvez pas parler, » dit Sol, « clignez 2 fois pour dire oui et 1 fois pour dire non. Êtes-vous le père Paul Duré ?»
La tête de l'homme pivota vers l'érudit.
« Oui. »
répondit-il d'une voix faible au ton grave et cultivé.
« Je suis le père Paul Duré. »
Le petit déjeuner comprenait du café, leur dernier, des bouts de viande frite sur leur réchaud pliant, une poignée de mélange de céréales avec du lait réhydraté et leur dernier morceau de pain divisé en 5 parts. Lamia fut d'avis qu'il était délicieux. Il s'était installé à l'ombre de l'aile déployée du sphinx, devant une roche basse au-dessus plat qui leur servait de table. La matinée était déjà bien entamée et le soleil grimpait dans un ciel sans nuages. On n'entendait aucun autre bruit que le tintement occasionnel d'une fourchette ou d'une petite cuillère, accompagnant leur conversation à voix basse.
« Vous vous souvenez d'avant ?» demanda Sol.
Le prêtre portait un vêtement que lui avait donné le consul, une combinaison grise avec l'écusson de l'hégémonie sur la poitrine. L'uniforme était un peu trop petit pour lui. Duré tenait sa tasse de café à 2 mains comme s'il allait la lever pour la consacrer. Il tourna vers Weintraub un regard suggérant une égale mesure d'intelligence et de profonde tristesse.
« Avant ma mort, »
fit-il en esquissant un sourire de ses lèvres fines de patricien.
« Oui, je me souviens. L'exil, les bicuras, et même l'arbre de Tesla.
Hoyt nous a raconté à propos de l'arbre, »
lui dit Brown Lamia. Le prêtre s'était cloué les pieds et les mains sur un Tesla en activité de la forêt des flammes. Il avait souffert des années, mourant et ressuscitant tour à tour, interminablement, plutôt que de céder à la facilité de symbiose offerte par le cruciforme. Il secoua la tête.
« J'avais pourtant bien cru, ces dernières secondes, que j'avais réussi à le battre.
« Vous l'avez battu, »
lui dit le consul. Quand le père Hoyt et les autres vous ont retrouvé, vous aviez expulsé cette chose de votre corps. Mais les bicuras l'ont implanté dans le corps de Lennart Hoyt.
Duré hocha la tête. Et tout signe de lui a disparu.
Martin Silenus désigna la poitrine du prêtre.
« Il est évident que ce putain de truc est incapable de défier les lois de la conservation de la masse. » Les souffrances de Hoyt ont été si grandes et ont duré si longtemps, il refusait de retourner là où cette chose voulait le forcer à aller, qu'il n'a jamais pris suffisamment de poids pour une double résurrection.
C'est sans importance de toute manière, fit Durer avec un sourire triste. Le parasite ADN du cruciforme a une patience infinie. Il reconstituera son hôte pendant des générations s'il le faut. Tôt ou tard, les 2 parasites auront chacun le leur.
« Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé après le Tesla ?»
demanda Sol d'une voix tranquille. Duré but le reste de son café avant de répondre.
« Si je me souviens de la mort, du ciel ou de l'enfer ?»« Non, mesdames et messieurs, j'aurais bien aimé pouvoir vous renseigner. Je ne me souviens que de la douleur. » Une éternité de douleur, puis de la libération, des ténèbres. Et je me suis retrouvé ici.
Combien d'années, m'avez-vous dit, se sont écoulées?
Près de 12,
fit le consul.
Mais pas plus de 6 pour le père Hoyt qui a passé du temps en transit.
Le père Duré se leva, s'étira, puis fit quelques pas. Il était grand et mince, mais donnait une impression de force.
Brown Lamia ressentait l'extraordinaire charisme qui se dégageait de cette personnalité hors du commun. Elle dut se forcer à se rappeler, premièrement, qu'il appartenait à une religion dont les prêtres étaient tenus au célibat, et, deuxièmement, qu'il était à l'état de cadavre seulement une heure plus tôt. Elle regarda le vieillard tandis qu'il faisait les 100 pas, sa démarche aussi souple et élégante que celle d'un chat, et elle se rendit compte que, malgré tout cela, rien ne pouvait détruire le magnétisme personnel qui émanait du prêtre. Elle se demandait si les hommes étaient également capables de percevoir cela. Duré alla s'asseoir sur un rocher, étendit les jambes et commença à se masser les cuisses comme pour se débarrasser d'une crampe.
« Vous avez commencé à me dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici, » fit-il. « Pourrais-je en savoir plus ?»
Les pèlerins s'entre-regardèrent.
« Vous pensez que je suis moi-même un monstre ?»
leur dit le père Duré en hochant la tête.
« Que je suis un agent du Gritch ? Je ne peux certes pas vous en vouloir si c'est cela que vous avez dans la tête. »
« Nous n'avons pas de telles idées, »
lui dit Brown Lamia.
« Le Gritch n'a pas besoin d'un agent pour faire ce qu'il veut. De plus, nous vous connaissons bien grâce au récit du père Hoyt et à votre journal. Mais nous avons déjà eu du mal à nous raconter les raisons de notre présence ici, et je crois que j'aurais pour ma part beaucoup de réticence à les répéter.
« J'ai pris quelques notes sur mon père Soc, » fit le consul. « Elles sont succinctes, mais cela devrait vous renseigner suffisamment sur nous et sur les événements qui se sont produits au cours de cette dernière décade dans l'hégémonie, sur les raisons de la guerre entre le Reds et les Extros, par exemple. Je vous le prête si vous voulez. Cela ne devrait pas vous prendre plus d'une heure.
« Je vous en suis reconnaissant, » dit le prêtre en suivant le consul en direction du Sphinx. Brown Lamia, Sol et Silenus prirent le chemin de l'entrée de la vallée. Du col, on voyait les dunes et les contreforts désolés de la chaîne bridée, qui se trouvaient à moins de 10 kilomètres de là. Les coupoles brisées, les flèches émoussées et les arcades effondrées de la cité des poètes étaient visibles sur leur droite, à 2 ou 3 kilomètres du col, le long d'une crête que le désert était en train de combler tranquillement.
Je vais aller jusqu'à la forteresse chercher des provisions,
leur dit Lamia.
Je n'aime pas trop l'idée de nous séparer, protesta Sol. Pourquoi ne pas y aller tous ensemble?
Martin Silenus croisa les bras.
Il faut que quelqu'un reste ici, pour le cas où le colonel reviendrait.
Avant toute chose, il serait plus prudent d'explorer le reste de la vallée, proposa Sol. Le consul n'est pas allé plus loin que le monolithe ce matin.
Je ne suis pas contre, déclara Lamia. Mais faisons vite. Je voudrais être de retour de la forteresse avant la tombée de la nuit.
Ils étaient revenus au Sphinx lorsque Duré et le consul en sortirent. Le prêtre tenait le père Soc à la main. Lamia leur expliqua leurs intentions et les deux hommes furent d'accord pour se joindre à eux. Une fois de plus, ils explorèrent l'intérieur du Sphinx, balayant de leurs lampes chaque angle bizarre de la pierre et chaque mur suintant. Ils ressortirent à la lumière du jour et parcoururent les 300 mètres qui les séparaient du tombeau de jade. Lamia se mit à frissonner lorsqu'ils entrèrent dans la salle où le Gritch lui était apparu la veille. Le sang de Hoyt avait laissé une tache brune sur les dalles de céramique verte. Il n'y avait aucune trace de plancher transparent communiquant avec le labyrinthe au-dessous. Aucune trace du Gritch non plus. L'obélisque ne possédait pas de chambre interne. Il n'y avait qu'un puits central avec une rampe spiralée, trop escarpée pour le confort des humains, qui grimpait contre la paroi d'ébène. Le moindre murmure était réverbéré et le groupe évitait le plus possible de parler. Il n'y avait aucune fenêtre sur l'extérieur, pas la moindre ouverture au sommet de la rampe, à 50 mètres au-dessus du sol. Leurs lampes ne leur montrèrent au-dessus d'eux qu'un toit incurvé. Des cordes et des chaînes, vestiges de 2 siècles de visites de touristes, leur permirent de redescendre sans trop avoir peur d'une chute fatale. Lorsqu'ils se retrouvèrent à l'entrée, Martin Silenus cria une nouvelle fois le nom de Kassad et l'écho les suivit dans la lumière du soleil. Ils passèrent un peu plus d'une demi-heure à examiner les dégâts subis par le monolithe de cristal. Des flaques de sable vitrifié de 5 à 10 mètres de diamètre irisaient la lumière du jour et reflétaient la chaleur sur leurs joues.
La façade brisée du monolithe, criblée de trous et dentelée par des stalactites de cristal fondu, évoquait un acte de vandalisme gratuit, mais chacun savait que Kassad avait dû se battre pour défendre sa vie. Il n'y avait pas la moindre porte, pas la moindre ouverture dans le dédale intérieur en nid d'abeille. Les instruments affirmaient que les lieux étaient aussi déserts que jamais. Ils s'éloignèrent à contre-cœur et prirent le chemin des falaises du nord où les trois caveaux étaient séparés l'un de l'autre par une centaine de mètres. Au début, les archéologues pensaient qu'il s'agissait de la partie la plus ancienne des tombeaux du temps, à cause de leur aspect, expliqua Sol tandis qu'ils pénétraient dans le premier caveau. Leur lampe éclairait des parois de pierre sculptées de 1000 motifs indéchiffrables. Aucun des caveaux ne faisait plus de 30 ou 40 mètres de profondeur. Chacun se terminait abruptement par un mur de pierre dont ni les sondes ni les radars n'avaient jamais pu découvrir une extension quelconque. En ressortant du troisième caveau, le groupe alla s'asseoir à l'ombre pour boire un peu d'eau et se partager quelques biscuits aux protéines prélevées sur les rations du paquetage de Kassad. Le vent s'était levé. Il sifflait maintenant à travers les pics au-dessus d'eux.
« Nous ne le retrouverons jamais !» fit Martin Silenus. « Ce putain de Gritch a dû l'emporter !»
Sol était en train de donner au bébé l'un des derniers biberons. Malgré tous les efforts de l'érudit pour lui protéger la tête quand il marchait au soleil, Rachel avait le crâne rouge. « Il est peut-être dans l'un des tombeaux que nous avons explorés, » dit-il. D'après les théories d'Arundes, certaines sections pourraient être temporellement déphasées par rapport à nous. Il voit les tombeaux du temps comme des constructions quadridimensionnelles, aux replis étroitement liés à l'espace-temps.
« Si je comprends bien, » murmura Lamia, « même si Fedman Kassad est là, nous ne le verrons pas. »«
On peut tout de même essayer, »
fit le consul en se levant avec un soupir de lassitude.
« Il ne reste plus qu'un tombeau à visiter. »
Le palais du Gritch se trouvait 1 kilomètre plus bas dans la vallée, au-dessous du niveau des autres, caché par une courbe de la falaise. L'édifice était moins grand que le tombeau de Jade, mais sa complexité, avec ses flèches hérissées, ses embases, ses arcs-boutants et ses colonnes de soutien qui formaient des courbes et des arcs dans un chaos contrôlé, le faisait paraître beaucoup plus grand qu'il n'était. L'intérieur du palais du Gritch était une chambre à la réverbération très forte et au sol irrégulier fait de milliers de segments incurvés qui rappelaient à Lamia les côtes et les vertèbres de quelques créatures fossilisées. À une quinzaine de mètres au-dessus de sa tête, la coupole était tapissée de dizaines de lames de chrome entrecroisées qui se prolongeaient à travers les parois pour ressortir à l'extérieur et au-dessus de l'édifice sous la forme d'épines d'acier. La coupole proprement dite était faite d'un matériau translucide qui donnait une teinte riche et laiteuse à tout l'espace intérieur. Lamia, Silenus, le consul, Weintraub et Duré recommencèrent à appeler Kassad, mais leurs cris résonnèrent 1000 fois sans aucun résultat.
« Aucun signe du colonel ni de Hetmastin, »
déclara le consul quand il ressortit à l'air libre.
« C'est peut-être ainsi que les choses vont se passer. Nous disparaîtrons tour à tour, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. »
« Et d'après la légende, le dernier qui reste voit son vœu exaucé ?»
demanda Lamia en s'asseyant en haut d'un rocher, les jambes pendantes. Le père Duré leva les yeux vers le ciel.
« Je ne peux pas croire que le père Hoyt ait fait le vœu de mourir pour que je revive, » dit-il.
Martin Silenus lui jeta un regard oblique.
« Quel serait votre vœu à vous, padré ?»
Duré n'hésita pas un seul instant.
« Je souhaite, je prie, pour que Dieu libère à jamais l'humanité de ces deux terribles obscénités que sont le Gritch et la guerre. »
Il y eut un long moment de silence durant lequel la brise de l'après-midi fit entendre ses gémissements lointains.
« En attendant, » leur dit Brown Lamia, « il faut trouver de quoi manger. On ne peut pas subsister de l'air du temps. »
Duré hocha la tête.
« Pourquoi avez-vous apporté si peu de vivres ? »
demanda-t-il. Martin Silenus se mit à rire, puis déclama.
« Ni le vin ni la bière ne l'intéressaient. Ni chair ni poisson n'excitaient son palais. Les sauces les plus rares étaient pour lui du son, ils dédaignaient les porchers devant leurs coupes épicées. Jamais avec des paillardes, ils ne s'asseyaient joue contre joue, ni en compagnie de douces amantes dans un coin discret. Cette âme de pèlerin aspirait seulement à l'eau d'un clair ruisseau et à l'air des bois, bien qu'il ne lui déplût pas, de temps à autre, de festoyer de quelques maigres ravenelles.
Duret sourit, visiblement toujours aussi perplexe.
« Nous nous attendions tous à triompher ou à mourir le premier soir, »
expliqua le consul.
« Nous n'avions pas prévu un si long séjour ici. »
Brown Lamia se leva et épousta son pantalon.
« J'y vais, »
dit-elle.
« Je pense pouvoir ramener l'équivalent de 4 ou 5 jours de vivres, si je trouve des rations concentrées. »«
Je vais avec vous, »
déclara Martin Silenus. Il y eut un silence. Pendant la semaine du pèlerinage, le poète et Lamia avaient failli en venir aux mains une demi-douzaine de fois. Elle avait même un jour menacé de le tuer. Elle le contempla un long moment avant de murmurer
« Comme vous voudrez. Nous nous arrêterons au Sphinx pour prendre nos gourdes et nos paquetages. »
Le groupe reprit le chemin de la vallée, tandis que les ombres commençaient à se former au pied des falaises à l'ouest.